Bonjour et bienvenue à la conférence téléphonique de la présentation des résultats du troisième trimestre 2019 de l'ICI. Je laisse à présent la parole à Monsieur Emmanuel Veillard, directeur général de l'ICI. Monsieur, c'est à vous.
Merci et bonsoir à tous. Nous allons vous présenter l'activité du troisième trimestre 2019 dans le format habituel. Si vous avez la présentation sous les yeux, à la page 2, vous avez le chiffre d'affaires du trimestre qui s'élève à 412 millions d'euros, qui se compare à 386 millions d'euros l'exercice précédent, une progression de 6,6. Vous voyez une accélération de la croissance, et en particulier la croissance organique qui est particulièrement dynamique sur la période, plus 5,7%. En cumul, on bénéficie d'un effet de change favorable, plus 32,6 millions d'euros. Nous avons également un effet d'intégration et de périmètre avec l'intégration de la société iVol qui apporte 29 millions d'euros de chiffre d'affaires. Là-dessus, il faut retirer 3,4 millions d'euros de la cession l'an dernier de la société allemande BTO, une petite société dans le traitement de surface pour 3,4 millions d'euros négatifs. Et également la sortie des sociétés qui est plus significative d'Indra Aero et de l'ICI Maroc pour 13 millions d'euros négatifs également. Nous avons en cumul, à périmètre et taux de change constant, une progression de plus 3,9 les 9 premiers mois de l'année, qui confirme ainsi le retour à une croissance organique positive telle que annoncée, avec également une accélération sur le T1 plus 1, sur le T2 plus 1,6 et sur le T3 plus 5,7, qui est principalement porté par la division aéro et de moindre mesure par l'activité médicale. Quant à elle, ICI Automotive, cette division surfe sur une activité beaucoup plus troublée, mais elle bénéficie néanmoins d'un effet de base moins pénalisant par rapport à 2018, puisque nous avions déjà freiné très fortement juste après l'été 2018. Quand on regarde par activité, l'activité aéronautique, les marchés sont solides et on bénéficie d'une demande dans la partie fixation très solide après le très fort ajustement, le trop fort ajustement de l'an dernier. Nous avons maintenant un effet de rattrapage. Et que ce soit en Europe comme aux États-Unis, on bénéficie là d'un contexte qui est très favorable avec une demande qui est bien orientée, principalement drivée par l'aéronautique commerciale du côté d'Airbus et l'ensemble de l'aéronautique aux États-Unis, en dehors de Boeing, qui nous pénalise avec les incertitudes liées au retour en service du Boeing 737 MAX. Qui aujourd'hui, on y voit un tout petit peu plus clair, mais dont le retour en service est toujours sujet à un certain nombre d'interrogations. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 235 millions, se comparant à 220 millions, donc une progression de plus 6,1 sur la même période, et à périmètre constant, on est à plus 9,3. Donc, vous avez bien compris que aujourd'hui, compte tenu du dynamisme de nos activités, des développements des nouveaux produits et des nouveaux programmes, nous avons donc une croissance positive qui fait plus que masquer, un, les impacts du 737 MAX et deux, la sortie d'Indra Aero Sirène et de l'ICI Aerospace Maroc. Nous avons donc un contexte qui est tout à fait positif globalement, que ce soit sur l'activité fixation comme sur l'activité composant de structure. Sur l'activité composant de structure, là, on sent un peu plus la baisse, notamment du moteur LIP 1B, donc destiné au 737 MAX, et notre client motoriste a reporté une partie des cadences qui devait être destinée pour le 1B sur le modèle 1A, donc destiné à Airbus, qui compense en partie. Et le reste, c'est l'ensemble de l'activité aéronautique en général qui fait plus que compenser. Donc, en organique retraité de l'effet périmètre et de l'effet devise, nous sommes en hausse, donc de plus 9,3, je vous le rappelle, sur le trimestre, et de plus 8,5 sur les 9 premiers mois. Donc, une activité forte d'un point de vue opérationnel. Le fonctionnement de la division continue à progresser. On bénéficie à la fois de la hausse des volumes, des mesures d'amélioration de la productivité industrielle, hein, des mesures qui ont été prises l'an dernier pour ajuster les coûts. Donc, on a un plein effet de la top line qui est très dynamique. Sur la partie automobile, là, nous évoluons dans un contexte qui est totalement différent. Je ne vous ferai pas une longue dissertation sur le marché automobile. Vous savez comme moi qu'aujourd'hui, il n'est pas simple. Il y a des changements structurels, il y a des changements également géographiques. On a donc un marché chinois qui est en fort recul à moins 6,3 au troisième trimestre. Néanmoins, il recule moins que sur le début de l'année, mais là, on a un effet de base. Le marché chinois est en fort ajustement. L'Europe fait mieux, à moins 1,6. Hein, les États-Unis également sont relativement stables. Aux États-Unis, il y a un autre sujet qui est la grève de General Motors qui nous a affectés sur le trimestre et qui continuera à nous affecter également sur le mois d'octobre, même si ce qu'on a compris, c'est qu'il y aurait une reprise de la production en cours. À 141,2 millions d'euros, qui se compare à 131,1%, on affiche une progression de plus 7,7. Donc là, c'est un effet de base. L'an dernier, donc, on a fortement freiné. Et en organique pur, on est à plus 0,6. Donc, vous voyez que là, on a atteint un point dur. Hein, et que quand on regarde notre petit histogramme, on voit que, compte tenu du nombre de jours ouvrés, aujourd'hui, on relève la tête. On relève la tête, il y a des marchés qui se stabilisent, hein, quand même, il faut le dire, mais surtout, il y a la montée en puissance de nouveaux produits, hein, tous les éléments nouveaux que nous avons pris sur les exercices précédents qui génèrent du chiffre d'affaires. Donc, notamment, là où on cherche à se développer, c'est sur les marchés à forte valeur ajoutée, comme les composants mécaniques de sécurité et les solutions clippées. Là, donc nous devons adapter encore notre structure de coûts. Nous avons des capacités d'adaptation sur la partie coûts variables moins importantes que dans la partie aéronautique. On doit maintenant se réorganiser pour trouver des conditions d'activité qui soient conformes aux volumes actuels. Dernier point, excusez-moi, j'ai passé un tout petit peu vite, c'est sur la cession donc de l'usine de Saint-Florent qui concerne les activités visserie de châssis et de pivot de direction qui poursuit son cours et dont on espère annoncer le closing de l'opération d'ici la fin de l'année. Concernant l'ICI médical, vous voyez que vous avez promis la montée en puissance des nouveaux produits après le fort ajustement de l'an dernier. Donc aujourd'hui, on délivre. Après un fort premier trimestre, aujourd'hui, on est toujours en progression. Donc, on a une activité qui s'est stable grâce à la montée en puissance des produits de la chirurgie mini-invasive à Minneapolis. Hein, et puis, on a également un effet de vis. Quand on corrige tous ces éléments-là, donc en organique, on est quand même à plus 7,7, donc ce qui prouve le dynamisme de cette activité après un exercice précédent qui était un peu compliqué. Donc, nous avons aujourd'hui une bien meilleure activité dans les deux principaux sites, Minneapolis, encore une fois, et de Caen, alors que les deux petits sites, donc Escondido en Californie et Néron, sont plus petits sur des activités volatiles, donc principalement destinées au secteur du rachis. Et là, nous devons absolument redresser la situation sur ces deux petits sites. Donc, ces deux petits sites pèsent sur la marge alors qu'on a une montée en puissance hein, des deux sites principaux. Alors, ce qui vous intéresse principalement, ce sont les tendances et les perspectives. Perspectives de croissance à long terme du marché aéronautique. Là aussi, je ne vais pas vous faire un long discours, mais ça reste solide. Bon, vous avez vu l'annonce de Boeing de baisse des cadences du 787. Ce n'est pas vraiment une surprise. On était un tout petit peu en sur-régime. Aujourd'hui, Boeing se doit d'adapter par rapport à la demande sur le marché des gros porteurs, mais c'est surtout les monocouloirs. Une fois que le 737 MAX sera revenu en service, on devrait retrouver un niveau d'activité en croissance. Nous avons évalué l'impact sur l'exercice 2019 de la sortie, enfin du fait que le Boeing 737 avait été réduit en cadence, en manque d'opportunités de 15 à 20 millions d'euros. Et vous avez bien compris que la dynamique des autres activités d'ici aéronautique, aérospace, devrait compenser totalement ces impacts, rester en positif, hein, et également compenser la cession des sociétés Anaero et Maroc. C'est comme une bonne performance dans le contexte, il faudra le noter. Donc, il ne faudra pas regarder la top line qui restera quand même en légère progression, mais surtout la croissance organique qui va rester dynamique dans la division aéronautique. Dans la division auto, même si on va bénéficier d'un effet de base favorable, on ne rattrapera pas le retard hein, qu'on a pris jusqu'à présent. Néanmoins, compte tenu de l'intégration de Haivol, nous allons compenser une bonne partie de cet effet marché. Et là, on a un problème d'équilibre de charge et changement de mix de portefeuille produit. La sortie également de Saint-Florent sur 2020 va nous donner une qualité bien meilleure de résultats pour qu'on se remette dans une perspective de croissance et résultats de l'activité aéronautique qui restera automobile, excusez-moi, qui restera sous pression sur l'exercice 2019. Il est clair que on capitalise sur les nouveaux produits des segments composants mécaniques de sécurité et solutions pipées, hein, qui doivent nous permettre également de transformer progressivement notre division d'ici automobile. Dans la partie médicale, la visibilité sur la poursuite de l'activité orthopédique, elle reste bonne. Hein, les segments sur lesquels on est positionné, la typologie des clients, tout ça, ça reste très solide. Donc, il ne faut surtout pas tirer des conclusions trop hâtives. De performance sur les deux derniers exercices, il faut mieux se projeter. On est en train de transformer, de faire un gros travail de fond. Et nous restons, bien entendu, très positifs sur cette activité médicale. La maîtrise des montées en cadence des nouveaux produits, donc du mini-invasive, chez RMLA, elle se passe. La maîtrise, ça veut dire qu'aujourd'hui, on contrôle la montée en puissance et que cette usine va progressivement se charger et donc produire des résultats, comme par le passé, tout à fait attractifs. Et ensuite, on doit travailler sur deux petits sites pour résoudre la situation qui est plus fragile sur ces deux éléments, mais qui sont que marginaux par rapport aux deux gros sites de Minneapolis d'une part et de Caen d'autre part. Enfin, on note des relations positives avec nos grands clients, hein, et ce qui est un point positif et qui conforte notre position sur ce segment de marché dans le médical. Voilà, quand on consolide l'ensemble, on fait plus que maintenir notre guidance avec donc une amélioration de nos résultats qui est confirmée, le retour à une croissance organique positive qui est confirmée et le dépassement notamment de nos objectifs en free cash flow qui va être largement positif, et je dirais même les qualifierait d'excellent niveau. Donc si nous réitérons encore une fois le message général que l'on vous a déjà fait passer, je tiens un point positif. Donc nous délivrons ce que nous avons promis avec des perspectives aujourd'hui, une fois qu'on considère qu'un certain nombre de sujets plus difficiles sont derrière nous, qui devraient continuer à s'améliorer. Voilà pour ma part ce que je tenais à vous dire oralement, et maintenant je vais laisser la place à vos questions, donc à vous pour poser vos questions via le système.
Merci. Mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, vous devez composer le 01 sur votre clavier téléphonique. Nous avons une question de la part de Christophe Ménard, Kepler Cheuvreux. C'est à vous.
Oui, bonsoir. Bonsoir, j'avais 3-4 questions si je peux les poser. La première, c'est sur la guidance. Ce qu'il y a dans la press release, c'est vous avez la manière dont c'est tourné, c'est une augmentation de votre guidance par rapport à ce que vous aviez dit au H1, puisque vous parlez d'une croissance organique largement positive dans la press release et oui. D'un free cash flow d'un excellent niveau, alors qu'avant, il était d'un bon niveau. Donc, est-ce que déjà, la première question, c'est est-ce que vous confirmez cette amélioration des objectifs? C'est un upgrade de gain.
Ça, je peux vous répondre facilement, c'est oui, je confirme. D'accord.
D'accord, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et après, au niveau du free cash flow, quand on passe d'un bon niveau à un excellent niveau, ça se traduit concrètement en termes de chiffres. Ça veut dire 20 millions supplémentaires? Ça veut dire 10 millions supplémentaires? Ou comment, où mettons la jauge en fait?
Allez-y, posez vos autres questions et puis ensuite j'y répondrai.
D'accord. Les autres questions, c'est sur les activités aéro US. Donc on comprend que si j'ai bien compris votre message, le chiffre Boeing n'est pas nécessairement très bon. Donc quelle est la croissance organique des autres activités? Parce que finalement vous êtes sur une très bonne croissance organique aux US, donc ça sous-entend que le reste des activités sont... Attendez, je reprends mes chiffres, mais on doit être sur une très très bonne dynamique de croissance organique sur les autres activités. Et si oui, dans quel est-ce que c'est plus le militaire, est-ce que c'est les bizjets, c'est les hélicoptères? La troisième question, c'était sur la cession de Saint-Florent. Est-ce que vous avez en tête dans l'automobile des cessions supplémentaires en automobile, est-ce que vous avez identifié des sites qui pourraient avoir le même, du moins qui pourraient être cédés également? Et voilà, ça c'est les trois questions. J'en avais une quatrième, mais je la poserai après si elle est moins importante.
Très bien, merci Christophe. Donc je confirme la guidance qui a été légèrement réévaluée. Où aujourd'hui, plus on s'approche de la fin de la période, plus on est capable d'affiner les choses. Et on voit effectivement, après les chiffres du T3 qui sont quand même bons, d'avoir donc la vraie confirmation d'une croissance qui est largement positive, après une croissance qui était à la hauteur du trait, on va dire, et le free cash flow d'un excellent niveau. Alors comment est-ce qu'il faut considérer le caractère excellent? Il faut plus le raisonner par rapport au volume d'activité. Aujourd'hui, nous, on considère que lorsque on a une guidance qui se rapproche d'un free cash flow de 5% du chiffre d'affaires, on est dans les niveaux excellents.
D'accord.
Donc, par rapport aux chiffres qu'on a annoncés au T1, donc c'est plus, c'est au-delà de 20 millions d'euros de progression. OK?
D'accord.
Voilà. Quand on regarde après la croissance aéro US en annexe, je vous l'ai affiché sur l'écran là, vous avez le détail par ligne. La croissance Europe c'est plus 7,5 en organique, la croissance US on est à plus 12,6 avec un effet dollar on est à plus 19. Alors qu'est-ce qui marche bien aux US? Boeing en fait n'a pas si mal fonctionné que ça, compte tenu des nouveaux produits qu'on aura livrés. Et ensuite on a toute l'activité aéronautique, en particulier avec les distributeurs, qui fonctionnent bien, et là qui correspondent pour nous à des prises de parts de marché. Ça veut dire que globalement, aux États-Unis, on est dans une bonne tendance, avec deux usines qui fonctionnent excellemment bien, qui sont l'usine de City of Industry, Monadnock, et puis l'usine de Dorval au Canada, et Ayrshire qui continue, donc l'usine principale de Torrance, hein, qui continue à progresser. Là, sur des marchés plus standards, on a quand même des niveaux de marché là, qui sont un peu plus tendus, mais néanmoins qui continuent à progresser. Donc, nos trois sites sont très correctement chargés aux US. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question concernant la partie aéronautique, concernant la partie automobile. Après la session de Saint-Florent, dans les sujets où nous travaillons, il nous reste un petit dossier encore en Allemagne, mais aujourd'hui, on n'a pas d'autres sessions prévues du type Saint-Florent ou du type BTO qu'on vous a déjà présenté par le passé. Donc là, c'est plus des travaux internes de réorganisation, réaffectation de certaines productions, etc., pour optimiser notre empreinte industrielle. Dans l'automobile, on se doit d'être parfaitement organisé sur des produits qui sont quand même bataillés et des clients qui nous mettent sous pression en termes de prix. Là, ce qu'on voit également sur l'auto, ce que je ne vous ai pas cité, c'est qu'on a une baisse des prix matières, des coûts matières, donc qui vont nous redégager un petit peu de marge, puisque nous allons pouvoir différer la baisse des prix de la même façon. Les clients nous ont différé la hausse qui était liée à la hausse des matières premières. Donc là, on va rentrer dans une séquence qui est plutôt positive, j'espère, sur la dernière partie de l'année, sans qu'il y ait de révolution majeure hein, dans les niveaux de résultats. Et enfin, je voudrais surtout pas que vous tiriez des droites un peu trop vite et que vous partiez dans une direction inverse en termes de guidance, puisque nous aurons un T4 qui va se comparer à un niveau d'activité l'an dernier qui était bon, puisqu'on avait déjà commencé une reprise dans la partie aéronautique en 2018. Hein. Donc, là, nous aurons une base de comparaison dans l'aéronautique. Si elle est plus favorable dans la partie auto, elle sera moins favorable dans la partie aéro. Donc, faut pas raisonner en écart par rapport à l'an dernier, il faut plus raisonner en vitesse instantanée, où là, on aura. On va délivrer un niveau d'activité très correct sur le T4, hein. Mais en tous les cas, je ne voudrais pas que vous partiez trop vite vers une amélioration des marges trop brutale. Voilà. Pour calmer un petit peu vos ardeurs. Pas vous spécifiquement, Christophe, hein, mais de manière générale. Et vous aviez une dernière question?
Oui, si je peux la poser, c'est
Allez-y.
dans l'hypothèse, du moins en fait j'en avais, oui j'en avais deux, mais je reviendrai après si pour faire place aux autres. Mais dans l'hypothèse où Boeing était amené à baisser les cadences de production sur le 737 Max, bon ça n'a pas l'air, c'est pas ce qu'ils ont annoncé aujourd'hui, hein. Mais dans cette hypothèse-là, qu'est-ce que vous préfériez faire, c'est-à-dire traditionnellement vous ne faites pas de stock, mais est-ce que vous seriez quand même amené à faire du stock ou est-ce que vous baisseriez en accord vos cadences de production en interne?
Alors écoutez, c'est pas le scénario qu'on joue, donc effectivement, on ne s'est pas encore posé la question, mais à partir du moment où nous allons avoir une baisse de production prévue pour un certain temps, on va couper les productions.
D'accord, ok, si c'était le cas.
Le stock, lui, il est encadré par un min et un max. Aujourd'hui, on n'est pas au max, donc on a encore une petite capacité de pouvoir garnir les positions. Donc tout ce qui sera lancé sera stocké. Mais ensuite, on va ajuster les lancements, il est évident.
D'accord. Merci beaucoup.
Très bien, mais écoutez, on va laisser la place aux autres pour les autres questions.
Nous avons une question de Jérémy Salet de Ports en Part. C'est à vous.
Oui, bonsoir. J'avais juste une question sur la partie fixation Europe. Enfin, si j'ai bien compris, on était flat au S1. Alors, on affiche 7,5 d'organique sur 9 mois, ce qui implique une très forte croissance sur le T3. Je voulais juste comprendre s'il y avait des éléments ponctuels qui expliquaient cette forte croissance et où est-ce qu'on devait, enfin, est-ce qu'on pouvait prolonger cette dynamique sur le T4 et un peu plus longtemps.
Alors, Fasteners Europe, effectivement, c'est assez compliqué à rationaliser parce que quand on regarde la production, elle est quand même en croissance chez Airbus, mais elle n'est pas aussi significative. Alors, il faut voir d'où on vient. On vient d'un niveau d'ajustement par notre grand client avionneur européen qui a eu lieu l'an dernier. Et aujourd'hui, on est plutôt dans une phase de restockage. Parce que vous avez vu que le niveau d'activité du T4 là, est très significatif. Airbus se doit de livrer 100 avions par mois sur le dernier trimestre. Donc il y a une très forte pression sur les sites d'assemblage pour pouvoir augmenter les cadences. Donc il y en a chez nous des appels significatifs à court terme. Voilà, après moi je n'ai pas à commenter d'autres facteurs extérieurs. Ce qu'on peut noter, c'est que les autres segments européens fonctionnent à peu près correctement. Donc, il n'y a pas d'élément notable en dehors de phénomène de restockage que je mentionnais juste avant. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que nos clients motoristes européens continuent à être assez actifs malgré la baisse du 737, encore une fois.
En fait, j'avais vu un article qui disait qu'il y avait un site d'Arconic qui a subi un incendie en France. Est-ce que ça a pu jouer sur le T3 ou ça reste assez mineur?
Puisque vous mentionnez ce sujet-là, c'est pas moi qui le mentionne. Il est évident qu'on est appelé à dépanner là où c'est possible, puisqu'on est qualifié sur ces pièces produites sur ce site d'Arconic, pour pouvoir dépanner les besoins sur ces produits auprès des principaux clients.
Okay, merci.
Merci. Nous avons une prochaine question de la part de Jean-François Grandjean, Oddo BHF. Pardon. C'est à vous.
Oui, bonsoir. Juste une petite question concernant le 737 MAX. Donc, comment on se projette sur 2020 en fonction de l'évolution des cadences? Mais bon, après avoir gagné de 15 à 20 millions d'euros, donc plutôt focalisé sur la fin de période, comment on peut modéliser ça sur l'éventuel impact pour l'ensemble de l'exercice 2020? Merci.
Oui, alors aujourd'hui on travaille donc sur une hypothèse où donc là on a été pénalisé sur 737 MAX sur le deuxième semestre, on risque d'être pénalisé tout autant sur le premier semestre 2020. Donc pour nous l'impact donc qui se mesure en perte d'opportunité encore une fois, il sera du même ordre, c'est-à-dire du 15 à 20 millions d'euros qu'on a mentionné ici.
Parfait. Merci.
Travaillons sur ces hypothèses-là. Maintenant, moi, je ne fais pas d'autres plans sur la comète. On attend de voir, au gré des événements, ce qui va se passer sur ce programme-là.
Ok, merci.
Merci. Nous n'avons pas d'autres questions pour le moment. Mesdames, messieurs, je vous rappelle que si vous souhaitez poser une question, vous devez composer le 01 sur votre clavier téléphonique. Merci.
Christophe, je crois que vous aviez encore une question.
Nous avons Christophe Ménard de Kepler Cheuvreux. C'est à vous.
Oui, je reviens vers vous. J'en profite pour poser la question, une autre question sur la guidance. Vous nous aviez dit que vous faisiez donc des efforts sur la structure de coûts hein, des entités aéro et vous êtes en train de les faire sur l'auto également. Mais sur l'aéro, étant donné que les volumes sont particulièrement bons, est-ce qu'on peut penser aussi que votre objectif de marge pour l'année 2019 s'en est trouvé amélioré, puisque vous n'en parlez pas en fait dans votre guidance, mais logiquement par rapport au H1, est-ce qu'on peut aussi penser que cet objectif de marge au niveau groupe et au niveau de l'aéro s'en trouve amélioré?
Oui, alors c'est déjà assez difficile de donner des guidance au niveau global consolidé. Alors, on ne donne pas de guidance au niveau des divisions, mais il est évident que nous avons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, dans la partie aéronautique, un driver en top line qui est positif en ce moment. Donc, on a un effet positif là-dessus, d'autant plus qu'on a travaillé le mix, en sortant des activités peu rentables. Donc, même si sur le dernier trimestre, le chiffre d'affaires, il va manquer quand même un paquet de chiffres, le niveau de rentabilité, lui, va continuer à s'améliorer. Donc, voilà, on a travaillé la qualité. Quand on raisonne en taux de marge, on va continuer effectivement à s'améliorer. C'est ça votre question.
Mais plus que ce que vous pensiez à la fin du H1, ou c'est quelque chose?
Ben en fait, comme vous ne saviez pas ce qu'on pensait faire, je ne veux pas répondre à votre question, parce que la réponse ne vous servira pas beaucoup. Mais en tous les cas, oui, il y a une marge qui va s'améliorer pour l'ensemble de l'exercice sur l'activité aéronautique, à la fois en valeur absolue et surtout en valeur relative.
D'accord. Merci beaucoup.
Merci. Nous n'avons pas d'autres questions pour le moment. Mesdames, messieurs, juste un rappel pour vous inviter à poser des questions en composant le 01 sur votre clavier téléphonique. Merci. Nous n'avons pas d'autres questions. Monsieur, je vous...
Très bien, mais écoutez, c'est que nous avons été suffisamment clairs. Écoutez, merci à tous de votre fidélité, de votre attention. Nous vous donnons rendez-vous donc maintenant pour les résultats annuels, hein, qui auront lieu donc au mois de février, aux alentours donc du 20 février. Tout ça vous sera reconfirmé prochainement. Et puis écoutez, on vous souhaite en tout cas une bonne soirée et à votre disposition si vous avez d'autres questions, bien entendu, que vous n'auriez pas pu poser en ligne. Merci à tous et bonne soirée.